Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invité du jour, c'est Laurent Bécaud-Ruiz. Alors Laurent est artiste, peintre et photographe. Avant de devenir artiste, Laurent a dû vraiment travailler car il revient de loin. Un statut social, un milieu familial qui ne lui permettait pas vraiment de rêver d'être artiste. Cela ne faisait pas partie des possibilités de sa vie. Et pourtant, il a pas à pas passé chaque obstacle pour enfin suivre le chemin de sa meilleure vie et vivre en étant artiste. Laurent nous présente aujourd'hui son parcours, quelles ont été les transformations qu'il a dû opérer et comment il est arrivé à vivre sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente vie. Bonjour et bienvenue Laurent sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors Laurent, comment vas-tu aujourd'hui?
Bien, bonjour Fanny. Ça va très bien, je me sens bien, un peu stressé par ce premier exercice.
Ok. Voilà.
Mais je suis ravi d'avoir la parole, en tout cas que je suis ravi que tu aies un intérêt pour mon point de vue.
Merci beaucoup, moi je suis honorée. Alors pour replacer peut-être un petit peu dans le contexte et comme ça les auditeurs vont comprendre, là déjà on est dans ton atelier puisque tu es peintre, tu fais des peintures absolument magnifiques. Et je t'ai découverte, en fait, via tes peintures. Et tu as été mon premier achat de peinture. Donc, voilà, parce que je suis vraiment tombée amoureuse avec tes créations qui sont absolument fabuleuses et qui jouent sur des pigments et sur des formes géométriques. Quand on regarde ça, on est plongé dans des voyages pleins de sentiments. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc, est-ce que tu veux un petit peu décrire ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, merci déjà pour ces jolis mots. Je peins. Ma peinture est un peu une réponse à ma meilleure vie.
C'est okay.
Que j'ai commencé à peindre pour prendre du temps pour moi. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire et d'un seul coup, je me suis mis à peindre vraiment sans absolument rien y connaître particulièrement. Et je pense que c'est un peu l'expression de tout ce que j'avais en moi et de tout mon parcours de vie dans un geste le plus simple, le plus épuré.
Okay.
Donc peut-être que c'est le meilleur endroit pour moi, en tout cas de m'exprimer sans un mot, tout en laissant l'autre utiliser les siens. Et la valeur de ses adjectifs, la valeur de ce qu'il ressent derrière chaque mot. Et comme tu dis, plonger dans cette peinture, dans cette couleur, dans l'énergie qu'elle va convoquer, et que ça soit un peu comme un endroit de méditation finalement. Voilà, pour une introspection, tout à fait.
Ouais, c'est effectivement très méditatif. Alors peut-être pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui regardent pas forcément la vidéo YouTube, est-ce qu'on peut décrire à quoi ressemblent tes peintures?
Alors, on peut décrire par un mot qui est relativement simple. C'est comme un quadrillage. Voilà. Donc ça va être la succession et l'empilement de coups de pinceau uniques que j'obtiens avec la préparation de pigments préalables pour vraiment travailler la matière directement. Et je viens l'appliquer sur une feuille et c'est un peu finalement comme un exercice de méditation active. C'est-à-dire
okay.
que l'idée, c'est vraiment de faire de respirer déjà, la base. Je me suis rendu compte que souvent dans la vie, on respire pas correctement ou on prend pas le temps de respirer vraiment en profondeur. Et cet exercice-là, pour moi, enfin ce moment choisi avec la peinture, était un moment de respiration. Donc c'est vraiment prendre le temps de respirer et de vider un maximum son esprit pour faire un espèce de transfert avec la matière et une couleur. Et donc, pour ceux qui ne verraient pas, faut imaginer un quadrillage avec des coups de pinceau où la couleur sera nuancée petit à petit en fonction de là où je vais mettre mon pinceau avec plus ou moins d'eau, plus ou moins de matière. Et du coup, tout ça va créer une espèce de nuancier monochrome ou bicolore ou tricolore, ça dépend des jours. Et comme l'origine de la démarche était vraiment de prendre un temps pour soi, de calmer l'agitation dans la tête, on va voir que tout ce nuancier, ça va être comme un espèce de reflet du mouvement des pensées dans la tête. Voilà.
Ok, ouais.
Et le fait de l'avoir en face de soi dans un cadre, ça va pouvoir apaiser un petit peu ce flux de pensée.
Oui, j'aime beaucoup ta description et effectivement, c'est extrêmement reposant. C'est comme s'il y a du mouvement dans un cadre. Et alors, je suis hyper impressionnée parce que j'étais persuadée que peut-être, tu vois, tu traçais au crayon justement pour avoir ce quadrillage qui est plus ou moins régulier.
Alors,
Est-ce que tu le
oui.
fais?
Alors, au tout début, je faisais aucun quadrillage et ça partait dans tous les sens. C'était très drôle. Et petit à petit, je me suis mis à des repères. Voilà. Et c'est marrant que c'est finalement une discipline qui m'a appris à découvrir ou redécouvrir la vie avec des petits tips par la pratique d'un art. En fait, c'est pour moi un art miroir. C'est une thérapie, en fait. C'est mon coach. C'est dans le sens où, justement, finalement, ces repères, ça m'a permis de cadrer. J'ai fait pendant très longtemps de la photographie. Je fais plus de 10 ans de photographie avec une vie de bohème. Et j'avais un peu en moi cet idéal de l'artiste bohème, l'artiste rock'n'roll cliché, très attaché à sa liberté. Et finalement, en peignant, je me suis rendu compte que le cadre, c'est la liberté. C'est-à-dire que sur cette feuille blanche, voilà, elle a une surface limitée, la longueur, largeur, mais à l'intérieur, je peux faire tout ce que je veux. Et surtout que je vais avoir un point de début et fatalement un point de fin. Et à travers, et dans ça, je peux vraiment mettre tout ce que je veux. Voilà. Peu importe si c'est réussi ou raté, c'est pas grave. Au moins, j'aurais exprimé quelque chose et ça aboutit. Et ce qui est pratique, c'est qu'après, je peux le montrer finalement. Je peux partager, je peux communiquer avec. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Ouais.
Est-ce que tu considères que tu as des peintures qui sont ratées?
Oui, oui, oui.
Pourquoi?
Oui, elles vont pas être ratées dans le moment passé. Après, c'est juste de l'exigence sur la beauté. Mais ça m'est arrivé de garder des peintures que j'aimais pas trop, que je considérais entre guillemets ratées, de les mettre de côté en me disant non, j'ai quand même pas jeté ça, je vais juste garder et je m'en servirai plus tard pour me dire tiens, regarde comment tu as progressé. Et de les avoir quand même mis dans un feuillet lors des expositions et de les avoir vendues parce qu'en fait, finalement, à mes yeux, ils étaient ratés ou pas assez beaux, mais aux yeux de l'autre, c'était quelque chose d'attractif, de séduisant, de plaisant. Donc je me dis, voilà, c'est aussi encore un autre miroir de qu'est-ce que c'est que raté finalement.
Tout à fait.
Comme quand on est dans une espèce de tourment où on broie du noir et on est dans son mental et on pense, on cogitera ma vie, mon futur, mon passé. Oh là. Et dès qu'on change de point de vue finalement, bah non. La tête en fait, c'est change de point de vue et tu vas voir que finalement c'est pas raté, c'est en process.
Il y a une phrase, et alors je ne vais pas du tout faire honneur à la personne qui a sorti cette phrase parce que je ne me souviens plus de qui c'est, mais qui dit que réussir sa vie, ça n'existe pas. La vie, on la vit, c'est tout. Donc il
Ouais,
n'y a pas de réussite ou de raté en fait. Il y a juste la vie. Et ça, c'est une
voilà
phrase que j'aime
exactement.
beaucoup.
Ouais. Et c'est cool que tu le dises maintenant parce que ça va permettre de pouvoir te dire un truc qui va me lâcher le truc, c'est que ton podcast s'appelle Meilleure vie et forcément j'attends la question de qu'est-ce que c'est que la meilleure vie et justement une quête d'apaisement et d'instant présent et comme tu dis, ça se vit en fait, ça se vit et j'ai souvent entendu dire que le meilleur est à venir. Parce que finalement on apprend et ce sont des outils qu'on utilise pour encore façonner et améliorer. Voilà. J'aime bien cette idée-là.
Pour peut-être petite information, en fait, il y a aussi le spectacle de ta femme, je pense que vous êtes mariée,
Tout à fait.
qui s'appelle Meilleure Vie, donc Lisa, qui est venue sur le podcast, qui a eu l'extrême gentillesse de partager sa vision. Et en fait, Meilleure Vie, c'est vraiment, enfin, moi, c'est un concept que j'adore parce que c'est juste vivre sa vie et pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vivre en fonction de ce qu'on veut, de ses envies et des choses qui nous font vraiment vibrer. Parce qu'on est au jour, enfin, en tout cas, les gens de ma génération, on a été beaucoup drillés sur qu'est-ce que c'était une vie réussie, justement, qu'est-ce que c'est la
Ouais.
réussite.
Ah
Et
ouais.
au final, si on suit le chemin de cette définition-là, eh bien, on risque de passer à côté de sa vie à soi. Voilà, donc c'est ça le concept de meilleure vie, c'est de se dire, tu
Ouais.
marches sur ta vie à toi.
Ouais, c'est ça. C'est écouter, être à l'écoute de son corps, de soi, en fait.
Laurent, qu'est-ce que
Oui.
c'est, à quoi elle ressemble ta meilleure vie? De quoi, de quels ingrédients tu as besoin pour toi sentir que tu es dans ta meilleure vie?
Wow. Et ça, c'est une sacrée question. Ça, c'était une sacrée question. L'ingrédient, ben, tu vois, tu parlais de ma femme tout à l'heure, c'est un ingrédient dans le sens où il y a de l'amour. Et ça, la meilleure vie, ça se fait avec beaucoup d'amour. Ça se fait avec savoir le recevoir, qui peut prendre du temps, et c'est savoir aussi le donner. C'est savoir s'entourer aussi de d'amis pleins d'amour, et savoir aussi aimer même dans les différents, par exemple avec la famille, le temps de se faire accepter ou de leur faire comprendre que c'est ma voix et ma voix et je la fais. C'est l'essence. J'invente rien, pas grand chose. C'est aussi être le plus dans l'instant, essayer de pas trop voir de pas trop penser au passé pour pas trop perturber son futur. C'est-à-dire que souvent on voit le lendemain par rapport à comment on a pu vivre et parfois ça peut foutre la frousse si on est passé par des moments difficiles ou des tourments un peu collants et de s'en défaire. Ça passe par beaucoup d'acceptation finalement. C'est de faire grandir l'amour en soi pour accepter vraiment toutes les facettes qui nous composent et de convertir ça en action, en fait. Pas juste rester dans son état, mais je découvre que, par exemple, avec la peinture, si j'ai appris quelque chose de l'ordre du spirituel ou du philosophique, ok, ça c'est cool, ça m'a beaucoup servi. Et en fait, le fait d'avoir trouvé cet ingrédient, cette petite recette, cette petite potion, ça donne aussi envie de le transmettre. J'ai des idées de comment, mais c'est comment je vais inviter les gens à goûter cette petite potion, comme ça, qui est de s'émerveiller, de méditer, de contempler, d'oser tenter une introspection un peu plus profonde. J'allais dire douloureuse, mais c'est pas forcément douloureuse, mais plutôt plus honnête, plus sincère, en fait. Voilà.
Et l'honnêteté peut passer justement par avoir, enfin, en tout cas, faire face à des zones plus sombres, ce qui est plus difficile peut-être.
Ouais, bah de constater parfois qu'on a mis en place des mécanismes qui sont superbes, parce qu'ils permettent de nous excuser de tout pour ne pas avancer. En tout cas, pour pas se satisfaire.
Et est-ce que tu rêvais de cette vie-là, enfant, d'être artiste comme ça, en tout cas peintre? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou comment tu as pu exprimer ça?
Ouais. Enfant, je me faisais beaucoup de films dans ma tête, je m'inventais plein de personnages à côté de moi. J'ai pas eu un parcours scolaire super, très valorisant, et je crois que toutes les étapes de mon enfance et de ma vie m'ont amené inévitablement à devenir artiste. Et c'est vraiment petit à petit que j'ai découvert la photo déjà dans un premier temps. Après, ce qui est très drôle, voilà, l'autre jour, je suis allé chez mes parents parce que j'ai plein de cartons, parce qu'on a beaucoup déménagé et j'ai plein de cartons. Et ce qui est très drôle, c'est que dans chaque carton de l'époque primaire, de l'époque collège, de l'époque lycée, dans chaque carton, il y avait des pinceaux. Et j'ai dit, ben, c'est quand même super dingue. C'est comme si j'avais été le petit poucet de moi-même et ils avaient mis des indices comme ça. Et j'ai dit, ben, c'est marrant de finalement, en fait, peut-être que mon cerveau, au bout d'un moment, s'est dit, tiens, mais vas-y, en fait, vas-y, vas-y, tente. Tente, fais-le au moins juste pour toi, pour kiffer dans ta petite bulle intérieure et de vider ton sac avec cet outil-là. Et puis la rencontre avec Lisa qui m'a dit, ah, mais attends, mais Laurent, c'est super beau ça. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte de chez toi. Faut que ça sorte de ta chambre. Faut que ça sorte d'ici. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu par la main et justement, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du jeune Laurent. Et quel a été ton parcours un petit peu plus en détail? Donc, pendant l'enfance, tu disais tu avais retrouvé ces pinceaux, mais est-ce que tu peignais ou pas du tout? Tu étais quel type
Pas
d'enfant?
du tout, pas du tout. Alors, vous prendre par la main, madame, pour vous raconter mon histoire. Alors, j'ai grandi à La Réunion, à l'île de La Réunion. Donc, j'ai passé ma petite enfance là-bas donc, c'était merveilleux. C'était le, je pense que c'est là que tout a commencé pour moi, en tout cas, de l'émerveillement de la nature, la contemplation de la beauté.
Tes parents travaillaient là-bas, en fait, c'est ça? C'est pour ça que vous avez grandi
Voilà.
là-bas?
Non, pas du tout. Mon père est français et ma mère est péruvienne. Donc déjà, je
D'accord.
grandis avec deux cultures, deux nationalités, deux langues,
OK.
deux langages.
Comment ils sont allés vivre à l'île de la Réunion alors? Parce que, en plus, j'imagine qu'il doit y avoir une histoire incroyable. Français, péruvien, île de la Réunion.
Voilà. C'est que bah, mon père était de Paris et ma mère du Pérou. Elle vient, ils se rencontrent sur Paris et mon père est géomètre à l'époque. Il a une proposition de boulot là-bas. Et ma
OK.
mère qui dit, ben écoute, il fait un peu plus beau. Moi qui suis habitué au soleil, ben ça me
Let's go.
déplairait pas. Alors ils sont partis à l'aventure. Ouais,
Génial,
ouais.
génial.
Et là-bas est née ma petite sœur.
OK.
Ensuite, je suis revenu à La Rochelle. Enfin, pour
OK.
quitter, on a quitté La Réunion et pour garder un peu de mer dans le quotidien, on a déménagé à La Réunion, à La Rochelle.
Tu avais
Et
quel
de La
âge?
Rochelle, j'avais 7-8 ans, pardon.
OK.
Et ça s'est pas bien passé pour moi. Non.
Ouais.
Ça a été très difficile. L'acclimatation, on va dire,
Ouais.
à ce nouveau monde pour moi.
Mmh.
À ce climat et météo et social et avec les enfants de cet âge sont très cruels.
OK.
Et ensuite j'ai déménagé en Île-de-France dans le
D'accord.
sud
Le choc,
et
non?
j'ai retrouvé le choc et puis j'ai retrouvé un petit peu cet univers cosmopolite
OK.
dans l'univers de la banlieue, des cités, de tout
OK.
ça, de notre Donc j'ai passé de monde en monde, d'univers en univers, de climat en climat, et après j'ai découvert Paris, et là c'était un peu plus une autre aventure. Et j'ai
OK.
découvert la photographie,
OK.
et ça m'a permis de commencer ma vie de vagabond individuel.
D'accord. Et pendant ces années-là, donc justement, tu vois, style les années collège, lycée, comment ça se passait pour toi? Donc tu as parlé tout à l'heure que tu as eu une acclimatation très difficile. Alors, j'ose bien imaginer, je pense qu'à l'île de la Réunion, il y a une mentalité peut-être beaucoup plus libre, chaude, vraiment accueillante en plus. Et tu as le choc de revenir. Comment ça se passe? Est-ce que tu étais bonne élève? Est-ce que l'école t'intéressait ou comment ça s'est passé pour toi?
Non, non, non. Alors, je pense être social, mais de nature introvertie,
Ouais, OK.
ou en tout cas timide, timide.
OK.
J'ai compté avant de préparer notre entretien le nombre de fois où j'ai pu déménager. Et avec mes parents, j'ai dû déménager 11 fois entre mes
Ouais.
2 ans et mes 20 ans, peut-être.
OK.
Donc du coup c'était se faire des amis, quitter des
Ouais.
amis, se refaire des amis. Donc ça crée un élan social, mais ça crée aussi beaucoup d'une personnalité un peu sauvage ou un peu plus réservée, ou en tout cas ouvrir son cœur et se fermer, et puis ouvrir son cœur et puis se fermer,
OK.
c'est particulier. Au collège j'étais plutôt timide, j'avais pas d'amoureuse par exemple. Alors que
OK.
tout le monde avait ses relations, j'étais plus copain en fait. Je
Ouais.
cherchais peut-être que j'avais, à force de l'ouvrir et de le fermer, ce cœur, ben peut-être du mal à l'ouvrir pour une personne.
OK.
Et tu me parlais, tu me demandais le rapport à l'école et tout. Enfin, et non, en revoyant ces cartons, je suis retombé sur des bulletins des carnets de correspondance et
Ouais.
là. Là, c'était très fort parce que c'était rempli de insuffisant, peut mieux faire, décevant,
Ah non,
tout
OK. Ouais.
juste ou non,
Ouais.
j'ai une quantité de carnets de correspondance avec ça écrit en rouge, des notes pas ouf et du coup ben voilà un rapport avec l'école pas ouf non plus.
OK. Et comment tu t'évades alors pendant ces moments-là, puisque ça n'a pas dû être super facile, du coup, l'école, c'est pas ouf, le milieu dans lequel tu évolues, tu vois, l'environnement, c'est pas ouf non plus. Donc, qu'est-ce que
Ouais.
tu fais qui fait que tu tiens le coup, quoi?
J'écoute de la musique.
Ok.
J'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir deux cultures, donc deux écoutes musicales entre la musique latine et la musique française. Et à cette époque-là, mon père écoutait un peu de rock, alors j'écoutais ses cassettes. Mais je comprenais pas, en fait, parce que les cassettes qu'il avait, c'était du rock, mais la musique qu'il écoutait, c'était de la musique classique. Donc pour moi, il y avait un décalage, mais du coup, ça m'a ouvert la musique classique et un peu de rock. Et du coup, à cette époque-là, il y a aussi l'arrivée du rap. Et donc, du coup, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de hip-hop. Et parce que ma mère est péruvienne et qu'il y a aussi beaucoup d'amis à elle qui sont aux États-Unis, j'arrive aussi à avoir de la musique des États-Unis en exclu. J'étais très très fier de ça. Et
Privilégié.
écouter les ouais et écouter beaucoup de musique et très éclectique, en fait. Et en fait, tout ça pour dire que c'est un peu ce qui m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une ouverture sur les styles, en fait.
Et comment ça se passe une fois que tu termines après ton bac?
D'accord. Après mon bac, je fais partie de ceux qui ont fait beaucoup de, qui ont continué l'école pour faire plaisir aux parents. Voilà. C'était pas mon diplôme, c'était leur diplôme. Je le fais pour moi, mais alors en fait, c'est là où je me suis envoyé. En fait, c'est l'impression de le faire pour soi, mais en fait, le faire pour rassurer les parents. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après le bac, je sais pas du tout, je sais toujours pas ce que je vais faire.
Comme 90%
Comme
des
beaucoup,
jeunes
parce que, bah, en fait,
de
en fonction de, je pense que, ouais, il faut être touché par la grâce et avoir une vocation, directe pour savoir ce qu'on va faire à cet âge-là, parce qu'on est encore vraiment de l'enfant, encore, à cet âge-là. Ce qui était sûr, c'est que, ben, comme beaucoup, j'étais très fâché avec le monde scientifique, avec les maths et la physique, et je me suis tourné vers le monde du service tertiaire. Voilà. Pour aider. Voilà. J'ai eu la chance de trouver une école qui me prenne, parce qu'avec le carnet de, les notes que j'avais, c'était toujours un peu ric-rac pour me faire intégrer dans d'autres. Et du coup, ben, inconsciemment, ça crée des sous-couches derrière sur, comment se valoriser, comment prendre confiance. Ça, c'est très important. Il y a une énorme responsabilité, peut-être, de l'univers, de l'éducation.
Donc tu sens qu'une estime de toi-même qui est plutôt basse du fait de voilà ce parcours un peu où finalement c'est juste que voilà ça t'intéressait pas vraiment quoi ce que tu faisais à l'école.
Non, pas vraiment. En fait, j'ai la chance que mon père m'ait amené dans plein de musées et de m'avoir transmis ce goût de la curiosité. Et ça, c'est ce qui m'a toujours sauvé. C'est ce qui m'a toujours fait relativiser. J'ai toujours parmi, on va dire, cinq matières, privilégié une et me dire, tiens, ça, c'est plus intéressant que d'autres. Ou par exemple, j'ai eu des cours de latin. Latin, quoi. Boring. Mais la prof avait compris que moi c'était pas du tout mon truc. Cependant, le côté les cours de civilisation, ça c'était intéressant. Le côté culture G, le côté mythologique, le côté civilisationnel de ça c'était chouette. Après, donc, pour revenir après le bac, j'ai fait STT. Je sais pas du tout à quoi ça correspond aujourd'hui. Donc j'ai bien un bac STT. Et après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai fait du tourisme. Je fais du tourisme. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me plairait? Les langues, les voyages. Voilà. Donc, j'ai été agent de voyage. Ça a été mon premier métier officiel. Avant, j'ai été magasinier j'ai fait plein de petits boulots entre temps. Donc, j'ai commencé par faire agent de voyage. Après ce bac, ce BTS de tourisme, pendant les pauses déj, j'avais en face de moi, je déjeunais tout seul, et en face de moi, il y avait la maison de la radio. Et je me disais, mais Je vais faire de la musique, moi.
Ok.
Je vais pas faire de, enfin, je vais pas vendre des voyages. Et ce qui est
Ok.
marrant, c'est que tous les midis, j'avais en face de moi la maison de la radio qui me faisait des petits clins d'œil comme ça.
Ok.
Et moi, dans ma race, oh là là, je suis pas bien là où je suis. Les petits cadeaux à ce moment-là, c'était ben, des voyages gratuits en tant qu'agent de voyage. Donc, c'est des petits. Mais voilà, on est déjà dans l'univers du voyage.
Ok. Et alors, la musique, est-ce que tu as suivi ces premiers clins d'œil?
Et alors, pour continuer, je finis mon cursus de tourisme. Super, je l'ai pas en plus. Il me manque 0,5 points pour avoir mon diplôme.
Oh non. Yes.
Ouais, yes. Le gars le voulait vraiment, vraiment pas, quoi. Après, j'ai essayé de le repasser en candidat libre. C'était des catastrophes en catastrophes. Et après ça, après avoir passé ce BTS, je suis allé au Pérou
OK.
pendant 4 mois. En revenant, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours voulu faire de l'audiovisuel.
OK.
Alors ce que je vais faire, c'est que bon, j'ai pas assez d'argent pour me payer une école audiovisuelle. Je suis pas assez pauvre pour avoir des subventions. Alors je me
OK.
suis bricolé un dossier pour faire, comment on appelle ça, une reconversion ou faire une formation qui en un an voit ce qu'on voit en trois. Donc une formation d'audiovisuel. Et du coup, je me suis dit,
OK.
ok, je vais faire de la post-prod musicale, je vais faire tout ça. Je vais faire de la musique pour des films, pour des courts-métrages. Voilà.
D'accord.
Et je rentre dans ce cours d'audiovisuel et je découvre la photographie.
OK.
Du coup, j'ai un cours de photo, je fais des photos et le prof me dit, mais me prête carrément un appareil photo qui, pour moi, j'aurais jamais eu idée d'avoir ce type d'appareil photo, beaucoup trop onéreux, professionnel, impressionnant. Et j'aime bien l'anecdote du fait que quand je commence cette formation, j'ai un accident de scooter.
OK.
Voilà. Bim, bam, boum. Et donc, je fais cette formation. Petit à petit, le son. J'ai entre-temps eu une rupture amicale avec mon acolyte musical.
OK.
Voilà. Ça a été aussi une des étapes très très marquantes dans ma vie.
Parce que
On était un
tu faisais de la
parce que
musique avec
avec un
une personne,
binôme.
ok,
Voilà, exactement. Voilà.
et il y a une histoire et ça se passe mal et vous ne travaillez plus
Voilà.
ensemble, c'est ça? Ok.
Non. Non. Et je finis cette formation audiovisuelle donc du coup j'ai un goût très fort pour la photo, la musique est un peu et bien plus derrière, super. Maintenant que j'aime la photo, il me faut un appareil photo et un
Ouais.
ordinateur, mais j'ai pas ça.
OK.
Et bim, le chèque des indemnités de l'accident du début de l'année me permet de m'acheter
Génial.
mon matériel.
OK,
Voilà.
waouh, c'est marrant comme tu sais, tout s'imbrique comme ça, toutes les pièces du
Tout
puzzle
s'imbrique.
se mettent à bien fonctionner. Et alors, avant de démarrer sur l'étape photo, comment ça s'est passé dans ta famille, tu vois, le système, enfin, c'est-à-dire que ton milieu familial, il comprenait tes décisions ou parce qu'il y a eu une certaine forme de pression qui était enfin à toi de nous dire si c'était forte ou pas pour faire ces études.
Ah oui.
Mais comment ça se passait, tu vois, est-ce qu'ils ont compris ton trajet?
Je crois que ça les a crispés un peu.
Ouais.
Ça les a pas, enfin, crispés, c'est d'être un peu méchant. Mais ça les a inquiétés un peu. Parce que depuis toujours, j'avais cette remarque, de, non, mais tu vas pas faire de l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est le chaume-duc, fils.
Ouais, OK.
Ah. Mince. Alors, ils ont dit, ouais, fais, de toute façon, ça ne te coûte rien, je fais.
Ouais.
Mais j'ai toujours eu derrière ma mère en train de me dire, et si tu faisais une formation pour enseigner les langues, si tu donnais des cours d'espagnol ou des cours
Ouais.
de...
Ouais.
Oui,
Donc, ouais. Pas
mais non, en fait. Ouais, non, ça va
Pas...
pas, tu vois, je suis en train de faire autre chose et ça, c'est
Ouais.
pas ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est ton truc à toi, qu'elle était prof. Donc, ceci explique cela. Et donc, toujours à me dire, et si tu faisais autre chose, et si tu faisais quelque chose d'autre. Pas forcément à plein temps, mais en parallèle, tu vois, histoire de venir, que eux viennent avec leur bulldozer ou leur tractopelle pousser leur lopin de terre sur sur moi, mes envies,
Ouais,
et
ouais,
prendre un peu
ouais.
plus de place. Et donc, du coup, ça a toujours été vraiment un exercice de foi, finalement,
Ouais.
de se dire, OK, je comprends, ça vous inquiète, mais c'est pas ce que vous me proposez, ça me va pas, et j'ai envie d'aller plus loin dans mes désirs, dans mes envies, dans cette voie, dans ce qui m'appelle, dans ça, en fait.
Comment tu... Si vous appréciez le podcast, vous pouvez liker, vous abonner, donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et tout le contenu proposé par Vie ta meilleure vie. Merci. Comment tu fais à cette époque-là? Tu en as conscience? Parce que là, tout ce que tu dis, c'est effectivement, tu vois, c'est eux. Ils te proposent eux, c'est
Ouais,
leur peur qui projette sur toi, sur ta vie. Ça, c'est
exactement.
facile, entre guillemets, tu vois, de le voir avec du recul. Mais quand tu es dans le moment, est-ce que tu le vois?
Oui.
Et comment tu fais pour quand même te dire non, ça, c'est pas ma vie. Donc, je continue sur ce que je veux, moi.
Ouais, je vois. Je vois parce que, enfin, ce qui me vient tout de suite, c'est que je deviens artiste. Et pour moi, l'appellation artiste, déjà de base, je l'incarne vraiment avec beaucoup de timidité et de retenue parce qu'il y a tous les clichés de l'artiste qui
Ouais.
m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à l'extérieur, à mes parents, par exemple, ou alors à d'autres. C'est cette question, mais t'arrives à en vivre, etc. C'est pas facile, c'est dur. Enfin, tous ces clichés-là, très négatifs, viennent m'influencer. Et moi-même, je me sabote ou par manque de confiance aussi, clairement. Je ne sais pas si j'arrive à endosser cette appellation artiste. Fausse humilité ou syndrome de l'imposteur à ce
Ouais,
moment-là, tu vois.
ouais,
Je
ouais.
me cherche encore, je me cherche, je me cherche. J'ai du mal à me dire que je suis un artiste parce que je vois le truc comme quelque chose de wow, super, super puissant, super fort.
Et est-ce que tu as des inspirations, par exemple, là, tu sens que, tu vois, dans ton cœur, tu veux plutôt partir sur la photographie. Est-ce qu'il y a des mentors, même virtuels, ou des gens que tu admires, où tu dis, mais waouh, voilà, lui, c'est un photographe, il est professionnel, il en vit, donc je peux le faire aussi.
Alors, je sais pas, je me rappelle plus si à l'époque je pense que j'ai jamais eu de mentor. Je pense que je cherche toujours un mentor. Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant dans cette validation par un père. Mais j'ai pas. Ce qui se passe, c'est que du coup, je commence la photographie et le premier sujet qui me vient tout de suite en tête pour m'exercer, c'est d'aller justement dans les clubs de jazz que je fréquentais à ce moment-là. Donc je photographie des musiciens. Normal, puisque j'étais déjà avec la musique. Et c'est que c'était un sujet passionnant pour moi. Et du coup, je m'imbrique dans une vie avec d'autres artistes, avec d'autres musiciens de d'autres disciplines, enfin d'autres artistes d'autres disciplines. Et finalement, il y a une espèce de mouvement mécanique comme ça qui demande pas forcément de mentor, mais peut-être la force du groupe ou la psychologie du groupe ou eux, par exemple, ça semble clair. Alors je suis dans le flow, je suis le vent, je suis la vague, je me laisse influencer, je me laisse pousser. Et je les accompagne, et puis ça me fait avancer, ça me fait pratiquer, il y a quelque chose d'un échange, je reçois des merci et de ces beaux des félicitations. Donc du coup, ben,
On
je vais
continue.
voilà, voilà, je continue par là.
Et donc, tu vas faire ça pendant 10 ans. Et comment ça se passe en fait? Tu arrives à en vivre directement ou ça s'est fait petit à petit?
Alors au début, je commence la photo, je fais mon réseau avec mes musiciens et je rencontre une femme et comme ça, sur un coup de tête, je vais passer de vivre un an à Berlin, alors que je ne connais rien de l'Allemagne, je ne sais pas parler allemand, je suis qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, finalement. Alors je vais vivre cette aventure, je découvre un peu l'architecture, je marche beaucoup, Et comme le coût de vie là-bas est inférieur à celui du Paris, ben j'arrive à m'en tirer. Je retourne sur Paris bosser 1 ou 2 semaines et puis pour moi ça me permet de vivre toujours ma vie de bohème. Et en revenant sur Paris 1 an plus tard, je commence à assister des photographes. Je me lance et voilà. Il faut que je continue mes classes, quoi. Donc j'assiste plein de photographes. Et jusqu'au moment où je me dis tiens, je vais essayer de m'ouvrir un numéro Siret, d'ouvrir mon compte, d'ouvrir mon business. Quand j'y pense, je suis un gamin à ce moment-là. Je suis vraiment
Tu as quel âge à ce moment-là?
je dois avoir 23, 24, ouais, 23, 24, 25, je sais pas. Peut-être par là. Entre 23 et 25, on va dire.
Et là, tu es toujours dans ce réseau de... Donc, tu photographies des musiciens ou tu es passé à autre chose,
Voilà.
quoi?
Je suis passé complètement à autre chose, quelque chose de plus pragmatique, plus concret, les portraits. Plein de portraits. Ouais. Et des reportages. Je fais des reportages, des mariages, tout ce qui me vient, en fait, finalement. Je crois que tant que ça peut me faire travailler avec l'outil qui me plaît, que ça me rapporte de l'argent pour avoir des vêtements et de la nourriture, ça me
Ça
va.
te va, ouais.
Ouais, ça me va. C'est surtout rester dans le contexte, tu vois. Les boulots d'à côté que je pouvais faire, c'était soit assister des photographes ou alors de vendre des appareils photo à la Fnac, à Darty, des choses comme ça. Il fallait rester dans le sujet. C'est important. Bon, pas trop s'éparpiller.
Et comment ça se développe ces 10 années dans la photo?
Lentement, je pense que je manque d'ambition. Il y a quelque chose qui je me remets souvent en question, je manque beaucoup de confiance, je doute. Tu vois, là, ça fait 4 ans que je fais de la peinture et j'ai fait peut-être 4 ou 5 expos. En 10 ans de photo, jamais fait une dans une mairie à Berlin, donc au tout début, et une autre dans un bar. Je manque. J'ai été touché par ce défaut de perfectionnisme, d'exigence, d'insatisfaction, de jamais assez, regard très critique, peur de montrer. Et comme je traînais avec des personnes aussi très douées, une comparaison à l'autre qui était trop envahissante pour moi, trop dure, trop. Enfin,
Et
donc.
comment tu gères ce doute, tu vois, parce que là, tu viens justement de dire que tu avais beaucoup de doutes. Comment tu gères? Tu gères pas peut-être? Comment tu fais?
Je gère plus, j'ai laissé ça. Je pense que le doute, c'est bien parce que ça fait partie de la profession de foi, tu vois. Avoir la foi en quelque chose, c'est un cadeau. C'est aussi une base en soi. C'est comme un fil qui nous relie à l'infini. Enfin, c'est ça. Du moment qu'on suit cette ligne, ça va. Après, peu importe le chemin à emprunter, la forme, la couleur que ça va avoir. Dès que j'ai un doute, je me dis que j'essaie de changer la caméra de place. Ok, j'ai un doute, je sais pas si de me dire ok, c'est pas si niais ou nul ou simple ou léger ce que je fais. J'essaie de me dire que jusqu'à présent, s'il y a autant de gens qui m'ont dit que c'était beau, que ça leur faisait du bien, qui est déjà une forme de reconnaissance, une valorisation merveilleuse, eh ben, ça me permet de pas rester que sur moi et sur cette idée cérébrale de c'est un doute. C'est un doute, je sais pas si je vais. Je me rappelle à quel point je peux prendre du plaisir à faire ce que je fais. Et du coup, ça va être virtueux parce que je me dis, ok, t'as un doute, pourquoi? C'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon format, c'est pas le bon pattern. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu retrouves le jeu, en fait? Amuse-toi. Oublie le côté il faut faire un truc, une série pour une expo, pour une résidence, bon, je sais pas quoi. Amuse-toi. Amuse-toi. Va t'amuser. Va t'amuser. Si tu fais un truc et que tu t'amuses plus, change de truc. Ça sert à rien, en fait. Voilà.
Et comment tu as trouvé ça? Parce que c'est très très fort de dire justement, voilà, il faut s'amuser, il faut avoir cette énergie en soi qui fait que ben, tu te lèves le matin, tu dis yes, quoi, je vais faire un truc chouette, je vais m'amuser, je vais pas faire un truc pour l'extérieur, pour faire une expo, pour. Non, je le fais parce que ça va être du kiff. Comment on fait
Ouais,
pour en
ok.
arriver là, tu vois?
Comment on fait pour en arriver là? Ouais. Ça, c'est. Parfois,
Est-ce que
parfois, on vit des choses et on ne se rend pas compte et parce que les choses s'enchaînent et puis il y a un bon matin, on se réveille et on regarde vite fait derrière. On dit, ah, j'ai fait tout ça, c'est chouette. Et alors, pour essayer de répondre à ta question, qui sont trop éparpillées, écoute, la première expo que j'ai faite, ou les encouragements très puissants de Lisa, ça a été dingue parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, ça faisait pas très longtemps que je faisais de la peinture. Ça faisait peut-être moins d'un an, peut-être un an, on va dire un an, que je m'étais fait plaisir en termes de matériaux à utiliser, au coût que ça représente, donc à l'investissement qu'il y avait dedans. Et le coût de cette expo, c'était peut-être que j'avais pas mis autant d'argent dans le matériel photographique depuis très longtemps. Donc il y avait déjà un énorme élan d'amour de me faire des cadeaux. En faisant cette expo, je flippais beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1 heure de temps, j'avais amorti. En 1 heure d'expo, j'avais vendu de quoi être à solde zéro et de faire du positif, du positif et du positif. Et donc, j'ai reçu cette douce vague d'amour sur moi qui donne confiance, qui dit, bon, ça valait le coup. Et la première expo s'appelait Plongée dehors. Voilà. Titre aussi très 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 inspiré par trouvé d'ailleurs par Lisa, parce que me montrer sortir de ma tanière, de ma grotte, de ma forêt, de ce côté intérieur. Voilà, donc déjà sur la jauge de 100% de doute, il y a un bon 50 qui vient, enfin il y a un bon 30 ou 40 qui vient d'être cramé. Hop, les bons souvenirs, ce qui est chouette avec les bons souvenirs ou les moments de yes qui sont excitants, c'est de les capturer et d'en faire une petite capsule comment on appelle ça, de champ vibratoire. Tu vois? Tu te rappelles du yes que ça a créé et tu te le mets en post-it comme ça. Et quand ça va pas, tu peux le reprendre. Tu dis yes, je m'en rappelle. À ce moment-là, c'était vraiment super stylé la vie. Ah ouais. Et tu t'inspires de ça et le fait de les avoir en face de toi ou t'en rappeler régulièrement, c'est comme si tu créais ton stade. Tu vois, ton stade de France rempli de yeah, vas-y, vas-y. Et t'es au milieu, ok, d'accord, super. Tu crées cette foule en toi de joie, de motivation, et ça te permet de te connecter à pas que toi. Ce qui est particulier quand t'es artiste, parce que quand tu fais des recherches, tu bricoles, t'es dans ton laboratoire, t'es dans ton intellect, dans ton pensée, dans ton parcours, dans tes souvenirs, dans ta vie, dans tes tourments, dans tes joies. Et moi, par exemple, qui ai toujours eu des difficultés à m'exprimer, ben, j'ai réussi à trouver un langage non verbal, tout de suite bien interprété par rapport au retour que j'ai eu sur mes peintures et me dire, OK, ben, j'arrive à exprimer quelque chose avec ça. Poste après poste, expo après expo, ben, je retrouve ça. Et il y a d'autres rencontres, du coup, qui viennent m'encourager et qui me poussent à coller de plus en plus de post-it. Vas-y, mec.
C'est vraiment, vraiment génial ce que tu dis. Parce que pour moi, il y a deux choses. La première, c'est ben, même si tu as peur, il faut quand même y aller à un moment donné. La peur ou le doute, tu vois, ne justifie pas de ne pas le faire. Et en fait, à partir du moment où tu fais ce premier pas, il y a un peu un effet boule de neige. Et alors, ton exercice de mettre sur des post-it, en fait, est génial parce que dans la formation que je propose, en fait, sur comment développer l'estime de soi, il y a un exercice qui s'appelle la boîte à cookies. Mais ce que tu expliques, c'est
Ouais,
beaucoup plus
mais ça
poétique.
marche
Mais
très bien.
donc la boîte à cookies et chaque cookie, en fait, c'est un souvenir, c'est ton post-it à toi. C'est un souvenir, une expérience, quelque chose qui s'est bien passé. Et tu le mets dans ta petite boîte à cookies. Et quand tu commences à avoir des doutes ou des choses dans ta vie qui font que, oh mon Dieu, j'ai peur, je doute que je puisse y arriver, eh ben, tu reprends ces moments-là et tu te reconnectes à ces instants qui ont été des pures réussites. Et comme tu l'avais dit, ce champ vibratoire, cette énergie que tu as eue à ce moment-là, quoi. Donc c'est génial. Toi, tu l'as fait naturellement, quoi. Génial.
Oui. Et c'est vrai que avec la peinture permet ça, en fait, parce que C'est mettre dans la matière, en fait.
Ouais.
Et ça, je pense que ça fait partie peut-être du processus d'atteindre une meilleure vie. C'est que
Ouais.
d'avoir des pensées ou de dire, tiens, je vais penser à être meilleur ou je vais penser à faire comme ça pour me sentir mieux, est une chose, mais de pouvoir l'inscrire dans quelque chose de matériel, ça aide. Ça aide
Ouais.
à sortir la pensée, la voir et de la remettre dans son corps ou avec son corps, avec son mobilier, son intérieur. Voilà.
OK. Donc là, si on reprend juste un tout petit peu la chronologie, tu as fait 10 ans de photographie et est-ce que
Oui.
tu peux juste nous expliquer en gros cette transition, comment s'est passée la transition entre la photo et la peinture? Comment est arrivée la peinture dans ta vie? Parce qu'on n'a pas, on sait pas encore ça.
On sait pas encore, on sait pas encore. Quand j'étais photographe, je faisais que de la photo. Et finalement, je me suis vite retrouvé dans un mode de vie où j'avais pas forcément de hobby ou d'activités sportives à côté ou d'autres activités associatives à côté. C'était ça ma vie, c'était ça la
Ouais.
bosser de la photo. On rencontre plein de gens de toute façon et puis faire la fête, faire des photos, chiller le week-end, sortir, aller dans les concerts, les cinémas. Et je cherchais un hobby en parallèle et je voulais faire ça, je voulais apprendre. Et la compagne que j'avais à l'époque, elle savait faire ça.
OK.
Et je lui ai demandé de m'apprendre. Ça a été très difficile, elle m'a jamais appris. Mais je la voyais faire et ça me donnait envie. C'était juste là, à côté. C'était pas dans ma vie, mais dans la vie de la personne qui m'accompagnait dans la vie.
Ouais.
Et donc, à côté, c'était juste...
Ouais.
On n'a jamais pris ce temps d'apprendre plus techniquement. Et je crois que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'après, quand cette histoire c'est fini, je me suis dit, ben, si tu veux apprendre, apprends. Et si tu
OK.
trouves personne pour t'apprendre, apprends par toi-même.
Mmh.
Donc, je suis allé au magasin, j'ai pris, voilà, je vais faire de l'aquarelle. Donc, c'est les godets qui sont là, les petits godets, c'est des petits cubes
Mmh.
avec la peinture déjà prête, les pinceaux, j'ai pris des petits pinceaux. Quel est le meilleur papier, s'il vous plaît? Celui-ci, j'achète. Et j'ai
Ouais.
découvert et j'ai vraiment vu qu'en fait, donc l'aquarelle, ça marche avec de l'eau. Et puis, plus je mets de l'eau, plus c'est clair, plus je mets de la matière, plus c'est foncé. Et puis voilà, j'ai appris comme ça.
OK.
Et
Donc par toi-même en fait, hein?
donc, c'est venu par moi-même.
Ouais.
Voilà.
OK. Et
Et je l'ai,
ensuite,
ouais.
quelle place ça a pris? Parce que là, tu es encore photographe, tu commences comme hobby.
Ah oui, ce qui est génial, c'est que ça devient mon moment pour moi, mon autre chose que la photo.
OK.
Du coup, et dans cet élan d'apprendre par soi-même, il y a quelque chose de complètement naïf, complètement innocent. Et c'est là qu'est la bénédiction, parce que je m'en fous tant que ça me fait kiffer, tant que quand je suis dans ça, ce qui est génial, c'est que mode avion, téléphone sur le côté, petite playlist, petite table, silence radio, et je fais que ça. Et le
Ouais.
but, c'est d'aller du début à la fin, sans m'arrêter.
OK.
Ce qui me fait faire des sessions de 2, 3, parfois 4 heures,
OK.
qu'à faire
Wow.
ça.
Ouais.
Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau parce que ça fait respirer. Ça fait se concentrer sur une chose qui a un début et qui a une fin, donc potentiellement une satisfaction. Ça me fait aussi faire l'exercice d'aller jusqu'au bout, peu importe si j'ai l'impression de l'avoir raté au début, au milieu ou presque avant la fin. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout et de voir après, in fine, si c'est réussi ou pas.
OK.
Un peu comme la vie, tu vois. Est-ce
Ouais.
que j'ai raté ma vie? Je sais pas, tu verras à la fin, tu vois.
Ouais.
C'est ce que ça me disait. Et voilà, petit à petit, comment cette activité est devenue un peu ma thérapie. Et ça m'a permis aussi de me détacher de la photo, dans le sens où j'avais trouvé un autre endroit dans lequel m'exprimer et me dire, oh, Oui, bon, bah, la photo, finalement, c'est devenu mon carnet de notes, mon notebook. Toutes les photos que j'avais prises et qui étaient super belles et que j'en ai jamais rien fait parce que, égo mal placé, c'est devenu, en fait, finalement, j'étais en train de constituer mon carnet d'inspiration et voilà comment j'ai réussi à créer un peu plus de légèreté dans la photographie, de continuer à être aussi léger dans la peinture et puis l'énergie se faisant dans la peinture, l'enthousiasme se faisant là-dedans, ben, j'ai privilégié la peinture plus que la photo.
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu ne fais plus que la peinture exclusivement ou tu fais encore de temps en temps de la photo?
Aujourd'hui, ça m'arrive encore de faire de la photo. Et c'est
Ok.
d'ailleurs ce qui va venir créer de la trésorerie sur la peinture quand j'en ai besoin.
Ok.
La peinture marche. Mais après, voilà, j'apprends aussi cet univers de ce game du monde de l'art, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et donc, en apprenant, il y a des moments où il y a des hauts et des bas, mais je ne sais pas vraiment finalement ce que ça veut dire. Peut-être que, en ce qui me concerne, des moments d'activité, d'inactivité, et une nouvelle vie aussi que j'apprends en étant père, en étant parent, donc en ayant aussi plus que ma vie à moi où j'avais le temps de faire et de la photo et de la peinture et que de la peinture et passer des heures et des heures et des heures à faire que de la peinture. Là, ma vie, il faut que je la structure, on va dire, un peu mieux, que je la discipline.
Ok,
Et ça,
tu mets
c'est
du
un challenge.
cadre.
Et voilà, il faut que je mette du cadre.
Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a changé ta vie de devenir papa?
C'est plus moi et ma vie de bohème, c'est moi, ma vie, la vie de mon enfant, la vie de ma femme, la vie d'équipe, en fait. C'est une vie d'équipe, donc il faut broder avec ça, avec les humeurs de chacun, les envies de chacun, les besoins de chacun. Ça demande de la tolérance, de la respiration, de lâcher prise sur le « j'avais prévu de faire ça à telle heure », en fait. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça, monsieur la vie. Voilà, bébé se réveille la nuit. Eh oui, de gérer la fatigue, gérer la fatigue. Parce que la fatigue, ça peut créer des idées noires, ça peut faire parler pas forcément très gentiment, ça peut pas être sympa la fatigue. Donc du coup, gérer ce facteur-là. Et en contrepartie, il y a ce regard de l'enfant qui est absolument droit dans les yeux, dans le présent, dans c'est que maintenant que ça compte, que ça joue. C'est Eckhart Tolle en permanence qui t'enseigne l'instant présent et l'amour comme ça, le besoin d'avoir des deux bras pour se balader, pour découvrir le monde et du coup ça stimule à montrer ce qu'il y a de beau dans le monde ou autour.
Au niveau de ta peinture ou de l'inspiration, est-ce que le fait de devenir papa, ça a eu un effet?
Oui, naturellement. Après, plus dans le fond. Dans la force du fond, c'est-à-dire le temps que demande l'attention et le soin à l'enfant, c'est du temps en moins pour peindre et du coup, ça demande une certaine forme de fulgurance pour essayer
Fulgurance.
d'être le plus connecté à moi sur l'instant, même si ça marche pas toujours comme ça et que parfois il faut accepter que c'est l'inspi ou la force ou la grâce va pas venir au moment où je suis dispo, mais d'aller à l'essentiel.
Est-ce
Sans
que...
pour autant ne pas passer des quelques heures à s'amuser, à tambouiller, à trouver des recettes, trouver des mélanges de pigments et des différents papiers, différentes matières pour s'amuser. Mais au moment d'attaquer, on va dire, la feuille pour de vrai, pas la feuille de brouillon, mais vraiment la feuille pour de vrai, d'être bam. Et même finalement, j'ai aussi de plus en plus de carnets, donc qui, par la définition, sont pas forcément les endroits où il va y avoir l'œuvre, mais qui, finalement, accueillent pas mal d'œuvres en soi. Et ce qui me permet de reprendre cette phrase de Picasso qui dit il n'y a pas d'essai, il n'y a que des œuvres.
J'aime beaucoup.
Et parfois, tu sais pas ce que tu vas faire là sur l'instant, mais en fait, non, hop, c'est réussi, génial, top.
Si tu devais aujourd'hui regarder dans le rétroviseur de ta vie et parler au jeune Laurent, qu'est-ce que tu lui dirais?
Que sa mère, la mélancolie, déjà. C'est important d'être dur avec ta mélancolie, de dire dès qu'elle apparaît, qu'est-ce que tu vas perdre du temps à broyer du noir? C'est important. Il faut se le dire d'une manière crue et dure. Enfin, voilà, je dirais que t'as l'impression que t'es pas en train de vivre beaucoup de choses, mais en fait, t'es en train de vivre beaucoup de choses, t'es en train d'apprendre beaucoup de choses, t'es en train de créer ton encyclopédie de l'humanité, mais de ton point de vue, à ta façon, t'es en train d'apprendre. Je pense qu'on sait à peu près tout de l'existence en soi, mais qu'on est fermé, et que plus le temps passe, plus on ouvre ses fenêtres et on se reconnecte à ses connaissances. Et voilà, ouvre-toi, sois curieux, apprends, et tout ce que tu feras, ça sera ta force, quoi qu'il arrive.
Et si maintenant on regarde en avant, donc là on a regardé dans le rétroviseur, donc on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite?
Mes rêves, waouh, est-ce que tu as du temps? J'ai beaucoup, ouais.
Écoute,
Ce qui est
c'est la
chouette, c'est que je suis
meilleure
un
réponse.
gros
Est-ce que tu as le temps? Comme ça, on
rêveur.
sait qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, parce qu'il y a des rêves qui vont avec l'ambition. Il y a des rêves on va dire, utilisons ce mot un peu bizarre, de carrière, ou peut-être de cheminement. Il y a des rêves qui vont avec le cheminement d'artiste peintre. Et pareil, des rêves qui vont avec le cheminement d'artiste peintre va transformer cet artiste peintre en plasticien. Donc c'est-à-dire des expos majeures, grandes, où j'arrive à toucher les gens, et puis finalement de me rendre utile. Tu vois, c'est comme quand on a un talent, c'est notre devoir de le mettre au service de l'autre, tout en pouvant kiffer un maximum. Après, j'ai des rêves de construire une super belle grande maison autonome, qui consomme peu. J'ai des rêves de... Il y a plein de rêves. J'ai toujours envie de rêver. J'ai toujours envie d'avoir de... Enfin, je pense que c'est ce qui permet de rester en vie et jeune, les
Mais
rêves.
ouais, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, les gens qui vivent leur meilleure vie, c'est des gens qui ont beaucoup de rêves. Et quand tu parles avec des gens qui sont pas forcément dans les meilleures conditions ou dans le meilleur moment dans leur vie, c'est souvent des gens, quand on leur demande, ben, quels sont tes rêves, il n'y en a pas trop en fait, tu vois. C'est comme si plus ta vie, plus tu es en dehors de ta meilleure vie, plus ça te met des œillères. Et moins tu rêves, tu sais, c'est vraiment le cercle vicieux, quoi. Et à partir du moment où tu oses commencer à t'ouvrir et dire, je vais en fait suivre mes envies, parce que enfin, on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça va être sa meilleure vie. Mais à part, tu es toujours dans le vrai si tu commences à suivre tes envies, et là, tes œillères, elles s'ouvrent et tu vas reprendre, tu
Ouais.
vas commencer à rêver.
Eh ben, à ça, j'ai envie de dire que c'est comme quand on prépare un voyage. On est d'abord super excité à chercher son billet d'avion, son hôtel, son spot, les conseils des autres. Et puis, OK, on a fixé la date, on a son billet d'avion, et c'est génial, on est excité, on a envie d'aller dans cette destination, on va voir ça, 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 ça. Et après, quand on est sur place, c'est pas la même excitation. Tout le temps de préparation est super excitant. Et quand tu arrives sur place, tu exécutes le programme. Et c'est beau. Mais parfois, tu te dis, ah, c'est comme ça, en fait. Ah bon, moi, je le voyais plus... Je le voyais différemment, la plage. Ah, ouais. Ou hier, je suis allé à un concert d'un mec que j'adore. Et entre le moment où j'ai acheté la place, j'étais tout excité. Waouh, c'est ma place. Et jusqu'au moment où la soirée commence, j'étais complètement fou. Oh, je vais pleurer comme un fan de 15 ans devant son idole. Et c'était là. Le show était super, le mec était génial, mais c'était pareil. Et je pense que ça fait partie du jonglage avec les rêves. C'est d'en avoir un ou deux
C'est
en cours.
intéressant. Si je reprends ton image du voyage, alors après, je pense que ça dépend, tu vois, parce que par exemple, moi, je ne supporte pas prévoir des choses pendant un voyage. Si je prévois des trucs, je vais tomber dans ce que tu dis. Moi, j'ai besoin de, tiens, j'ai envie d'aller là-bas, ok, je prends le billet d'avion. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben, on verra. Et en
Ouais, tu
fait,
te laisses aller.
c'est 100%. Moi,
Ouais,
prévoir les trucs, non, c'est pas pour moi, quoi. Sinon, forcément, ça va me décevoir, ça va me stresser avec des horaires et compagnie. Tu vois, les trucs que tu peux prévoir, peut-être quand tu vas te lever, tu vas pas du tout envie. de faire
Ah oui,
ça.
carrément,
Donc en
carrément.
fait, ça va juste te faire chier, tu vois. Donc imagine,
Ben
t'es en
oui.
vacances et en fait, ça te fait chier. Ben, c'est nul.
C'est nul, c'est nul. C'est pour ça, tu vois, pour faire le parallèle entre ça et ce que je viens de dire avant, pour ceux qui ont les œillères et qui ont l'impression
Ouais.
de tracer leur vie, c'est justement, c'est que ne pas attendre quelque chose de la destination ou de ce qu'il y aura à voir, c'est soit vivre dans l'excitation de vouloir atteindre une situation concrète, matérielle ou spirituelle, comme tu en as envie, ou soit mets-toi dans cette situation et vois dans cette achievement, dans ce point, prends la destination comme point de départ et explore, en fait.
Ouais. Et
Et
en
je pense
fait,
que,
n'est pas.
quoi qu'il arrive, il y aura forcément de l'excitation, de la joie.
Ouais. Et qu'il faut rechercher l'expérience, mais pas le résultat, en fait. Si tu recherches le résultat ou si tu es excité par le résultat, tu vas forcément être déçu. Et si tu es excité par, yes, je vais vivre une expérience. Mais
Ouais.
l'expérience, elle peut être, tu vois, dans le bon et dans le moins bon. Mais c'est aussi intéressant, une expérience où tu es ben, peut-être, ah tiens, ben, j'imaginais pas ça comme ça. Oh, c'est cool, tu vois. Alors que si tu
On est là
dis,
pour ça.
je vais ressentir ça, mais pas forcément, en fait, tu vois.
Ouais,
Donc,
ouais.
sois excité par l'expérience et pas par
Ouais.
le résultat, quoi.
Oui, ça fait appel au contrôle, en fait.
Ouais.
Si tu penses que tu vas ressentir telle émotion en étant là, c'est que tu contrôles un peu ton émotion et puis peut-être que tu vas te recevoir une grosse claque surprise. Ou
Ouais.
peut-être que finalement, oui, ça va être comme ça parce que finalement, c'est pas vraiment là qu'il fallait que tu sois pour kiffer de ton point de vue.
Ouais, absolument. Et
Ouais.
Laurent, je vais te poser la dernière question, signature du podcast. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour qu'à leur tour, ils marchent sur le chemin de leur meilleure vie?
Mon conseil pour une meilleure vie, c'est de changer la caméra de place, changer la perspective, de se regarder, d'être assis en face de son miroir et de placer la caméra comme si la caméra voyait le miroir et soi-même, et de raconter l'histoire qui se passe depuis cet endroit-là,
Ouais.
et de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment on arrive à s'écouter, à se comprendre. C'est important, c'est comme dans l'amitié, on a envie que l'écoute, c'est ce qui est le plus important. Donc devenir ami avec soi en s'écoutant, en se moquant de soi-même aussi, c'est important d'avoir de l'autodérision, et en rigolant d'un idéal qu'on trouverait, tu vois, finalement, quelle serait la solution pour aller mieux maintenant? De trouver la solution la plus folle, mais de la retenir, et finalement d'en faire un lieu de destination. Et de respirer, quoi. La base. La base, c'est
Respirer.
respirer. Ouais.
OK. Merci beaucoup, Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler et rappeler à tous les auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Où est-ce qu'on peut voir tes peintures? Est-ce que tu as peut-être des événements qui arrivent ou voilà, comment on peut te trouver?
Alors, je viens de terminer l'exposition au Japon. Donc
OK.
ça, c'est super cool.
Ouais.
Et pour ce qui est de la France métropolitaine, je n'ai pas d'actualité à donner pour le moment.
OK.
Sinon, vous pourrez me retrouver sur mon site internet www.laurentbecoruiz.net, sur mon Instagram @laurentbecoruiz, tout simplement. Et voilà, principalement. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages, ça me ferait plaisir. Ouais, ça me ferait très plaisir d'échanger.
Ok, super. Bah, écoute, je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Et un tout grand merci, Laurent, d'être venu et de nous
Ben,
avoir
merci à toi.
partagé ta meilleure vie.
Merci beaucoup, Fanny. Un plaisir.